cobuzz.com. Rencontre par Marc Zisman.
Ce nouveau podcast Cobuzz, nous sommes chez Francis, célèbre restaurant, célèbre brasserie parisienne près du pont de l'Alma, et nous buvons un thé avec Nathalie Monfrino. Bonjour.
Bonjour.
Côté du Théâtre des Champs-Élysées, vous avez déjà chanté sur la scène du Théâtre des Champs-Élysées?
Non, malheureusement, j'aimerais beaucoup, mais il y aura sûrement un concert bientôt, j'espère.
Alors, on voulait vous rencontrer parce que vous sortez votre premier récital.
Oui.
Sur le label Deka, prestigieux, j'allais dire, label
Deka. Très joli label, oui.
Très joli label, qui a
beaucoup de chance.
Un passé, on va dire, assez intéressant.
Ah oui.
Une personnalité non négligeable. Un récital consacré à des airs du rap français.
Mm-hmm.
C'était important pour vous, ce choix pour votre premier album?
Oui, parce qu'en fait, j'ai fait surtout des rôles d'opéra, enfin des héroïnes françaises sur scène. J'ai chanté surtout, j'ai fait sur scène Marguerite, Manon, Juliette, Rosaine, donc presque tous les airs qui sont dans le disque sont des rôles que j'ai interprétés sur scène avant. Et en ayant double nationalité, c'est-à-dire italienne et française, j'avais très envie de défendre le répertoire français en essayant de mettre une diction. Je me suis vraiment impliquée à la diction en essayant de faire comprendre le texte, de faire comprendre tous les mots. Et donc une très très grande envie. Et puis j'adore l'opéra français. Je trouve qu'on a des très grands compositeurs. Il faut les défendre un petit peu plus.
Est-ce que vous pensez justement, vous soulevez un point intéressant, la diction? Est-ce que vous pensez qu'il y a eu certaines années, à certains moments, où on a un peu, au niveau de la voix, fait passer plutôt... on a mis un peu la diction de côté, et
oui.
Le texte, etc. Et le fait notamment que ça soit justement que vous chantiez des airs dans l'une de vos deux langues maternelles.
Et c'est vrai que c'est difficile, parce que malheureusement, dans l'opéra français, le français écrit de telle façon que si on veut vraiment faire passer le texte, on perd de qualité de voix. Donc il faut arriver à garder la technique vocale, on va dire un peu à l'italienne, et en essayant de faire passer le texte. Donc continuer à garder des sons ronds, tout en essayant de faire quand même sonner les consonnes, les voyelles. Donc c'est un réel travail de on va dire, 15 ans, depuis que j'ai commencé à chanter. J'ai commencé un peu par l'école de la mélodie. C'est une très bonne école. C'est-à-dire que la mélodie, on n'a pas la prouesse vocale automatique, mais on a vraiment savoir faire sonner ces mots de ces grands poètes, ces très beaux poèmes, et si on n'y arrive pas, l'intérêt est quand même moindre. Une très bonne école de la mélodie, et après sur l'opéra, c'était une réelle volonté que je voulais avoir. C'est d'arriver à garder peut-être la technique un peu à l'italienne, la voix ronde, en essayant de faire comprendre le texte. Alors peut-être qu'on a eu moins d'opéras programmés en français à cause de ça, qu'on perdait trop le texte, surtout dans les voix de femmes. La voix de femme est placée différemment que la voix d'homme, et c'est-à-dire que dès qu'on passe un peu les notes de passage et un peu les aigus, on perd le texte. C'est très difficile, il faut vraiment s'astreindre, faire un travail pour garder une compréhension du texte. Et alors à cause de ça, on a peut-être eu moins d'opéras français programmés, parce que finalement en italien ça reste joli, l'italien est une langue qui est tellement...
Il y a une musicalité
qui est tellement faite pour chanter. Enfin l'opéra, c'est sûr que l'italien, ça sonne, les mots sonnent, même parler. La voix, la langue italienne, elle est déjà, elle chante.
Chance, ouais.
Donc oui, c'était une réelle volonté, et j'espère que j'y suis arrivée.
Est-ce que ça sous-entend quand vous abordez un rôle, le fait qu'il soit en français, c'est votre approche est différente justement par rapport à la manière d'aborder ce rôle, d'aborder le phrasé, tout ça?
Oui, complètement. Oui, par rapport à un rôle italien ou un rôle allemand. Alors c'est très différent en fait, vraiment. C'est aussi une histoire de culture et de façon dont on dit le texte, enfin même quand on parle dans la vie. Donc c'est abordé différemment. Ça reste la même voix, la même technique. Mais on essaie d'arrondir encore plus dans le français pour pas que ce soit des consonnes trop dures ou des voyelles trop dures, plus que pendant l'italien, parce que l'italien finalement ça se fait tout seul, hein. On n'a même plus besoin d'y penser. L'allemand c'est encore différent. L'allemand, pour essayer de l'adoucir et de rendre noble la langue, c'est plus aussi une technique pour, comme pour le chant français.
Est-ce que par rapport justement aux airs d'opéra français, est-ce que vous aviez des interprètes, j'allais dire, de prédilection quand vous étiez peut-être plus jeune ou même aujourd'hui?
Et justement, alors c'était difficile. Moi je vais vous dire, les interprètes que j'écoute dans l'opéra français, ce sont des voix d'hommes. J'ai écouté énormément de voix d'hommes. Donc mélodie,
et
évidemment.
En particulier,
des... Alors j'ai écouté du Camille Morane pour la mélodie, j'ai écouté mais même très intéressant, Guéda. Dans le français, ténor, oui, mais dans toutes les langues, il est extraordinaire. Et parfois, on a même l'impression, quand on entend son Péléas et Mélisande, il a chanté Péléas, on se dit, mais c'est pas possible, il est français. Et donc, c'est essayer de retrouver ce que la voix d'homme a réussi à faire dans le chant, dans l'opéra, essayer de l'appliquer pour la voix de femme dans l'opéra. Donc finalement, pour l'opéra français, j'ai pas tellement écouté, j'ai écouté beaucoup de chanteuses étrangères, mais pour la diction, finalement, j'essaie de vraiment mettre ma patte à moi et de m'appliquer sur la technique de ténor, comme aussi Roberto Alagna, qui a une diction formidable, et de faire des airs un peu plus modernes, par exemple, de ne pas essayer de retrouver les airs qu'on avait dans l'opérette ou dans certains vieux enregistrements qui rendent un petit peu désuet la façon de chanter le français. Donc finalement, oui, j'ai écouté plus des voix d'hommes.
Est-ce que les héroïnes, on a parlé de l'aspect, j'allais dire, musical, est-ce que les héroïnes elles-mêmes, est-ce qu'il y en a qui vous touchent plus que d'autres?
Oui, moi j'adore le drame. Donc c'est terrible.
Alors vous identifiez à
qui? Ouais, quand on meurt sur scène, c'est terrible, c'est horrible. Ah bah c'est le point final, ouais, de 3 heures, 4 heures de spectacle où on s'est donné à fond et où il y a une histoire dramatique, où on évolue. Ce qui est extraordinaire avec l'opéra, comme je pense au théâtre, c'est qu'on a la chance et le bonheur de pouvoir évoluer pendant 3 heures et de progresser avec le rôle, avec le personnage. Parce que évidemment au début ça commence plus ou moins bien et c'est des jeunes femmes qui avec la vie fait que elles ont des aventures terribles et à la fin bon c'est pas un épanouissement parce que ça finit mal mais quand même alors les grandes j'adore Manon, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire à faire sur scène et c'est très drôle parce qu'en même temps aujourd'hui on peut plus être comme ça, c'est les grandes courtisanes. Je ne suis pas une courtisane dans la vie, donc c'est bien de pouvoir faire ça sur scène. Juliette, c'est l'histoire d'amour par excellence, donc à la fin, on ne peut être que ému. Enfin, c'est terrible de se dire, pendant 2-3 heures, il y a cette grande histoire qui finit aussi mal. Si ça finissait pas aussi mal, ce ne serait pas aussi beau. Donc oui, il y a une jouissance d'évoluer avec le rôle, le personnage, et de finir... Enfin, j'aime beaucoup les rôles dramatiques. Après, il n'y en a pas beaucoup des rôles qui finissent bien non plus.
Est-ce qu'il y a une volonté aussi éventuellement de, par rapport à ces personnages, comme vous dites, qui sont presque d'un autre temps, de leur apporter une modernité, une certaine modernité par rapport à les thématiques
c'est
qui
très
sont
important.
Notamment dans votre interprétation, quand vous évoquiez tout à l'heure le fait justement de ne pas rouler les airs,
oui.
De le ramener dans une, je sais pas comment on pourrait dire, une contemporanéité.
Mais si, il faut parce que il faut se les approprier avec comment notre façon de réagir d'aujourd'hui. Même si les histoires, bon après ça reste des histoires universelles parce que. Les époques changent, mais les histoires sont toujours très actuelles. Donc il faut essayer pour amener un plus large public. Mais les salles sont pleines. Les salles sont pleines. Et puis il y a des jeunes publics qui viennent, parfois des étudiants, des universitaires. Il y a des soirées qui leur sont consacrées et ils réagissent extrêmement bien. Alors peut-être qu'aussi au niveau du jeu, il faut essayer de avoir un jeu moderne, de l'aborder comme on aborderait un jeu pour le cinéma. Et rendre... c'est vrai qu'on ne va pas faire les grands gestes, les bras écartés, les bras ouverts, rester bloqué. On bouge, on court sur scène, on se défait sur scène. Il faut le faire. Il faut arriver à cet extrême-là pour qu'en effet, ce soit crédible. Alors après, il faut aussi un peu avoir l'âge des rôles, ce qui n'est pas toujours évident, parce que souvent dans l'opéra, c'est même dit, elle a 16 ans, elle a 17 ans, elle a 15 ans, alors c'est un petit peu dur. Mais encore aujourd'hui, heureusement, on ne me critique pas ça. On me dit, bon ça va, j'ai encore crédible. J'espère que je serai pendant encore un moment.
Est-ce que pour vous, justement, c'est aussi important de la relation que vous avez avec un public, c'est-à-dire que de ne pas justement laisser l'opéra dans la naphtaline et de se rendre compte que en l'amenant à un certain public, le public peut être tout à fait réceptif. Et...
Oui. Ah, il faut te confronter tout le temps. Il faut avoir le retour du public, que ce soit à la fin du spectacle ou en dehors, quand on a des conférences organisées, des rencontres avec le public. Moi, j'adore avoir du retour, savoir comment on ressentit, si les gens ont été émus, s'ils ont eu un frisson, une larme, c'est vraiment la plus belle des récompenses. Hein. Enfin, moi, je fais ce métier pour la scène, pour être sur les planches, parce que je ne conçois pas le métier autrement. J'avais commencé par le théâtre, j'avais fait des cours Florent. Il a fallu faire un choix artistique à un moment. Et les sensations que j'avais avec l'opéra, la masse orchestrale, la voix chantée, projetée et travaillée comme un sportif, puisqu'il faut une quinzaine d'années pour faire un chanteur à peu près, quinzaine d'années, me procurait beaucoup plus. Et si à la fin, le public vient me voir et me dit que ils ont été émus, qu'ils ont eu une larme, c'est extraordinaire. Enfin, c'est extra. Moi, je fais ça pour ça, pour pouvoir émouvoir le public, et je me prends au jeu. Enfin, je veux dire, c'est obligé. C'est plus moi qui joue, c'est en tout cas le personnage. C'est-à-dire que pendant 3 heures, je suis vraiment Manon, je suis Roxane, je suis Juliette, et je suis pas en train de me dire, quand je prends la main de mon collègue, que c'est un tel ou un tel. Non, c'est Roméo, c'est Cyrano, c'est des Grieux, et vraiment, pendant ces 3-4 heures, je m'identifie. Après, je retrouve...
C'est quelque chose, justement, le fait d'avoir commencé par le théâtre, qui vous aide d'une certaine
peut-être,
manière aussi,
peut-être, pour arriver à ça, facilement. Sûrement. Parce qu'en tout cas, j'adorais ça, et je me souviens que je recherchais ça chez les actrices, ou après, quand je suis allée à l'opéra, je recherchais ça chez les chanteuses. D'avoir moi aussi, quand je vais voir un spectacle, le frisson, l'émotion... peut-être la petite larme, mais c'est vrai que c'est dur, c'est rare. Alors les salles sont de plus en plus grandes, le public est de plus en plus loin des chanteurs, donc nous, la présence scénique est plus faible, hein, puisqu'on devient un petit point parfois, c'est dommage. Et plus on fait ces opéras dans des salles réduites, comme là je viens de faire le Cyrano Bergerac à l'Opéra de Monte-Carlo, donc Garnier qui a fait cet opéra, je crois que c'est 500-600 places, il y a une proximité avec le chanteur et le jeu du chanteur-acteur, qui fait que les gens ont une émotion très très forte. Et ils vivent le final de Cyrano quand il lit sa lettre à Roxane, et Roxane réalise finalement que c'était Cyrano et pas Christian qui disait tous ces mots. Ils sont très très pris. Hein. Et des salles comme la salle de Favart, l'Opéra Comique ou la salle Garnier permettaient ça. Alors, c'est vrai que c'est plus dur à Bastille, je pense qu'on y arrive quand même. Mais la présence est importante, la présence corporelle est importante.
Vous étiez une petite fille devant votre dans votre chambre, dans votre miroir, donc puisque vous imitiez telle ou telle soprano, c'était plutôt au contraire des actrices.
Eh bien c'est vrai que c'était des actrices. Ouais. Au début c'était des actrices, c'est-à-dire que je me souviens avoir vu le film de Roméo de Zeffirelli, et je me rejouais le final, surtout le final, hein, surtout la mort, avec le poignard qui rentre 2 fois dans les entrailles. J'adorais me faire ça. Après, plus jeune, il y a eu aussi je m'amusais à faire d'autres personnages, d'autres rôles. Et moi, j'ai découvert l'opéra à 15 ans, 15-16 ans, donc plus tard finalement. Et là, oui, enfin, je ne me serais pas permis d'imiter les chanteuses ou de les jouer ou de les parodier finalement. Peut-être, je serais peut-être parodier. Mais en tout cas, l'intensité que j'ai ressentie en écoutant mon premier disque d'opéra, enfin mes 2 premiers disques d'opéra, c'était Tosca avec Maria Callas et Bohème avec Freni, Mirella Freni. Et j'ai une très très grande émotion, et c'est la vibration de la voix comme ça projetée et bien projetée et travaillée, j'ai trouvé ça formidable. Donc après c'est devenu aussi un but de pouvoir faire les deux. Et je me suis dit, mais finalement c'est vrai qu'on peut faire les deux. Encore peut-être plus aujourd'hui qu'avant, parce que... Alors au Calas ça a été la révolution. parce que vraiment, elle a été extraordinaire. Et quand on voit avant, ce qui se faisait avant, c'est hallucinant. Et quel artiste, on le dit, on le redit, mais bon, c'est vrai qu'on revient beaucoup à elle. Et c'est des déclics,
Et votre voix, est-ce qu'il y a un moment où vous avez réalisé vous-même le rapport que vous aviez avec votre voix, ce qu'elle représentait pour vous, physiquement, mentalement, intellectuellement? Est-ce que c'est venu progressivement? Comment ça s'est... Vous n'en êtes jamais vraiment rendu compte, finalement, c'était tout le temps là.
J'ai toujours chanté petite, ouais. Mais plutôt comédie musicale, enfin, ouais. Je veux dire, des choses de variété, chantons sous la pluie, des choses comme ça.
Ce que je veux dire, c'est qu'est-ce que même à ce moment-là, le rapport que vous aviez avec votre voix était le même qu'aujourd'hui? Je parle pas au niveau du résultat, mais de la manière...
Non, en fait, il y a vraiment eu le déclic vers 15-16 ans, quand en fait, je me suis mise à chanter par-dessus ces disques d'opéra, et que j'y allais à toute puissance, à fond, à faire la grosse voix d'opéra, à les imiter. Là, j'ai vu que je prenais énormément de plaisir à le faire. Et que là, je me suis dit, mais pourquoi pas? Alors après, le pourquoi pas, il faut se dire que quand on n'a pas du tout de chanteur dans sa famille, et que on est plutôt des néophytes, il faut aller voir des professionnels, il faut aller dans les conservatoires, il faut aller voir des profs de chant, leur dire, je sais pas chanter, moi je vous chante quelque chose par cœur que j'ai appris à l'oreille, à la feuille. Et dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que ça vaut le coup? Et c'est comme ça que commence le voyage. Mais très vite, c'est-à-dire qu'au bout d'un an de chant dans un conservatoire, quand j'ai passé le concours de fin d'année, et que ça s'est extrêmement bien passé, qu'ils m'ont fait sauter un an, alors que à l'époque je lisais pas la musique, que j'avais jamais mis les nez dans une partition avant, on se dit, il y a quand même quelque chose qui se passe. Et là, on sait que la vie, elle bascule quand même quelque part, parce qu'on se dit, bon, même... Si je ne fais pas une très grande carrière, même si j'arrive pas au niveau où je voudrais arriver, en tout cas, ça va être ça ma vie. Ma vie va être vouée à ça. Et si je peux, à la scène, évidemment, parce que c'était ça surtout que je voulais faire. Mais la scène chantée, la scène opératique, encore plus extraordinaire. Enfin, les sensations que cela provoque sont très intenses, très très fortes. Donc oui, il y a un déclic et on sait que sa vie sera différente. En tout cas, on ne peut plus fonctionner... en s'imaginant, voilà, il y a la vie de tous les jours et la vie de chanteuse. Non, en fait, on est complètement... Tout est lié maintenant. Et je raisonne simplement, mais je veux dire, en tant encore, toujours, maintenant, chanteuse. Il faut quand même faire très attention à son hygiène de vie, à son cadre. Il faut savoir que comme nous, c'est que de la prestation live et directe, instantanée. Il faut être toujours au top. Et on remet toujours son titre... dans l'arène, c'est vraiment une arène, hein. C'est un peu les jeux du cirque, je trouve, hein, moi, à l'opéra. Hein. Il n'y a pas les pouces levés, les pouces descendus, mais c'est quand même, on attend la prestation, l'aigu, le suraigu, peut-être aussi le plantage de voix, parce que c'est ce métier de l'instantané qui fait que c'est un métier unique, en tout cas. Et pas de micro, et une acoustique naturelle, et être super en forme à chaque fois.
La spécificité aussi, c'est que finalement, c'est l'instrument qui est... voix avec vous en permanence, vous utilisez même là en ce moment.
Exactement, deux cordes vocales où il faut quand même passer
une break, finalement.
Non, et puis il faut passer une masse orchestrale parfois de 80 musiciens, c'est quand même un mur quand on s'imagine que nous on n'a que deux cordes vocales et que ça reste voilà, on a deux cordes vocales et c'est tout. Donc oui, et puis donc dès que ça va pas, la voix c'est un baromètre incroyable. Donc après il faut passer outre quand on doit chanter, que c'est notre métier, savoir faire avec, même quand ça va pas, même quand on est malade et savoir l'apprivoiser, cet instrument.
Vous parlez d'entretien, d'hygiène de vie, etc. Concrètement, comment ça se passe? C'est-à-dire que vous avez, j'imagine que vous avez un emploi du temps assez chargé, en termes de récitage, concert, etc. Donc de toute façon, l'entretien, il vient déjà...
Oui, il faut tout le temps pratiquer. C'est comme un sportif, hein. Sincèrement, si on fait...
Si vous ne faites pas votre petit footing...
Une de vos collègues, elle a fait un article dessus dans Ça m'intéresse, qui disait « Chanteur d'opéra, est-il un athlète ?» Et le parallélisme est réel. C'est-à-dire qu'il y a une préparation, il y a l'échauffement, comme un l'échauffement pour un athlète, de manger des féculents, faire des vocalises. On perd aussi pas mal pendant la représentation. Et puis, on ne peut pas se permettre de boire trop, de sortir trop, il ne faut pas parler entre les représentations. Parce que quand on a un très gros rôle, la voix parlée fatigue beaucoup, les cordes vocales, parfois même plus que la voix chantée. Et donc il faut vraiment appréhender, apprivoiser tout ça. En fait, on l'apprend avec le métier. C'est-à-dire que plus on apprend à chanter, plus on sait comment avoir une bonne hygiène, faire du sport en effet, pas trop sortir, ouais, si c'est tout ça. Il faut être un petit peu plus ascète que d'autres.
Parce que justement, tous ces petits impératifs ont un impact. On est quand même là pour de l'art, quelque chose pour de la musique, pour l'interprétation. Est-ce que justement, toutes ces petites barrières n'ont pas d'impact parfois sur l'aspect se plonger complètement dans son art, dans son rapport qu'on a à la musique, des choses un peu extérieures finalement, physiques, et est-ce que parfois c'est pas trop lourd au final, ou est-ce qu'on arrive quand même à faire abstraction de ça, ou finalement maintenant c'est tellement présent chez vous que
Non, il y a des moments où c'est dur encore, il y a des moments où on se dit que on aimerait bien profiter de certaines choses, de moments familiaux, de fêtes familiales, de sorties, de... Et on peut pas
se
les permettre.
C'est plus en fait par rapport à l'approche de la musique elle-même, c'est-à-dire
sur
la musique elle-même, c'est-à-dire tous ces à côté, la préparation, l'entraînement, le côté physique, pas parler, etc. Sur le fait de complètement se vider pour ne penser qu'à justement son art, à son chant, à la partition.
On peut pas être parasité par d'autres choses.
C'est dur.
C'est vrai que dès qu'on a des soucis dans sa vie personnelle, c'est très dur de passer outre. Après, c'est vrai que notre rôle n'est pas de le faire passer sur scène. Enfin. On s'en nourrit énormément. Je pense que quand on vit des drames, quand on vit des choses très dures dans la vie de tous les jours, dans sa famille, évidemment qu'après, ça se répercute sur la scène et dans son interprétation et dans l'émotion qu'on va provoquer au public, parce que ça fait partie de notre être. Donc, tout est lié. Je pense qu'on ne peut pas dissocier et qu'il faut arriver à faire la part des choses, bien sûr. Artistiquement, moi, je dirais c'est pas dissociable en tout cas. Mon être vraiment très profond, c'est ce qui ressort de ma voix chantée aussi. Et comme une voix parlée, quand on va mal au téléphone, ça s'entend tout de suite. Et l'émotion qu'on va provoquer va peut-être encore plus se ressentir. Plus on vieillit, plus on vit des choses, plus je pense la maturité scénique, vocale est forte en tout cas. Si j'ai répondu à la question, mais je ne sais pas si je suis vraiment complètement comprise. Mais après, c'est pas dissociable. Je ne pense pas qu'on peut le licencier. Après, peut-être que ça nous bouffe après dans notre vie perso. Hein. Y a des rôles qui sont tellement intenses et tellement... c'est-à-dire que quand ma première mimi que j'ai fait à Bordeaux, là, au mois de septembre, ça a été une des premières fois où c'était le plus dur de se lever après la mort pour les applaudissements. Quand il y en a, hein. Il vaut mieux qu'il y ait des applaudissements, on espère toujours. C'est formidable, c'est une récompense extraordinaire, les applaudissements. Mais quand on est vraiment à fond dans le personnage, dans l'émotion, qu'on se lève, c'est très étrange. C'est-à-dire que ça nous permet de déconnecter, mais après, on ne se raconte pas des histoires. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, moi j'arrive, c'est moi, après je deviens mimi pendant 3 heures, 4 heures. Et c'est vraiment elle, mais je vis tellement son histoire, elle me fait tellement de peine en même temps que c'est dur d'en sortir. Il y a un moment, il y a un temps d'adaptation. Et je ne le conçois pas autrement. Peut-être que j'y laisse des plumes à chaque fois, parce que j'y mets toutes mes tripes, et que ce soit aussi pour Manon, le final de Manon, il est terrible, parce qu'elle fait beaucoup de bêtises dans sa vie, elle est jeune, elle est insouciante, et à la fin, elle réalise tout le mal qu'elle a fait à son pauvre dégrieux, et elle lui avoue, alors c'est très beau parce qu'il y a une très belle rédemption, elle lui demande pardon et je pense que ses pardons sont très très sincères. C'est des très beaux personnages, c'est des très beaux sentiments quand même. Je crois qu'en tout cas il faut y être à fond. En tout cas quand on est sur scène il faut tout laisser, en coulisses en tout cas, tous ses soucis, tous ses problèmes, mais il faut amener ce qu'on a vécu aussi avec nous pour pouvoir donner de son personnage, donner de la vérité en tout cas. Alors peut-être plus on vieillit, plus on y arrive, plus on vit des choses, plus on y arrive. Je ne conçois pas autrement.
Si je
Par rapport justement au rôle, à l'implication dans certains rôles, à l'identification, etc., vous avez cité déjà des noms d'héroïnes qui vous tenaient à cœur. C'est le cas certes pour des musiciens, mais je pense que les chanteurs, l'opéra permet justement de voir comment au fil d'une carrière on fait évoluer, quel rapport on a avec ce rôle, comment on rentre dedans au début de sa carrière, comment on le fait évoluer quand on continue à le chanter. Est-ce qu'il y a déjà des personnages, j'allais dire des héroïnes, vous êtes déjà presque excité d'avance de savoir comment tout au long de votre carrière vous allez les faire évoluer.
Ah oui, je pense. J'aborderai pas du tout de la même façon. Hein. En tout cas, c'est là où c'est très intéressant de rechanter les rôles. Y a une prise de rôle, c'est quelque chose de spécial. La première fois qu'on chante un rôle, on est extrêmement stressé parce qu'on ne sait pas déjà si finalement, même si on a beaucoup travaillé, on va jusqu'au bout. Parce qu'avec le stress, la façon de savoir si on peut chanter un rôle, c'est qu'en public et en direct et à la première, on le sait finalement si on est arrivé au bout. Mais évoluer avec un rôle, je pense que c'est formidable. On l'aborde automatiquement différemment, surtout aussi parce que les choses qui nous arrivent dans notre vie propre. Du coup, finalement, on se dit, mais tiens, c'est vrai que peut-être le compositeur a voulu dire ça à ce moment-là, je ne l'avais pas compris comme ça. Hein. Ou le librettiste. Moi, j'essaie toujours de lire les livres, souvent avant, comme... La Dame aux Camélias, Alexandre Dumas. Le livre est beaucoup plus violent que l'opéra. C'est terrible. Quand on lit le livre, on se dit, mais finalement, Verdi a assez édulcoré ce qu'a voulu faire... ce qu'a écrit Alexandre Dumas. Et le début commence quand même où Armand va déterrer Marguerite. C'est terrible, c'est violent. Alors en plus, quand on se fait des images en lisant le livre, on se dit... Ça a dû être d'une violence. Et donc ça nous nourrit. Et je pense qu'un rôle comme Traviata, on peut le faire très jeune en faisant avec toute la fraîcheur justement de la courtisane. Et plus on va vieillir, plus on va le refaire. Et plus je pense on va l'aborder. Peut-être pas plus intense, c'est différent. Mon premier rôle sur scène, c'était Mélisande. Et vraiment, je sortais toute fraîche des conservatoires, des écoles, et j'ai vraiment eu un stress énorme parce qu'on n'apprend pas ça, enfin tout en même temps. C'est-à-dire que sur scène, quand on arrive à faire un premier rôle, on a toutes les informations qui arrivent, le metteur en scène, le chef d'orchestre, les assistants, les régisseurs, les collègues, l'orchestre, les musiciens, donc on a tout qui arrive.
C'est une œuvre en plus parfois un particulier.
Très difficile musicalement, et le monde de Debussy, c'est très spécial, et puis on comprend pas très bien finalement cette histoire, c'est très mystérieux, et je l'ai abordé la première fois, c'est déjà il y a un moment, c'était il y a 8 ans à peu près, et je me disais, en repensant, je sais qu'à l'époque il y a une grande fragilité, une grande innocence qui a fait que ça a créé quelque chose de spécial dans le personnage, et je l'ai refait il y a 3 ans, c'était très différent, c'était plus une Mélisande qui était un petit peu plus au courant des choses de la vie.
Est-ce que c'est une maison que vous avez construite finalement en confrontation ou en opposition à la première que vous aviez en mémoire, ou est-ce que c'est juste vous l'avez fait évoluer avec vous, avec votre...
Évolutive, non, je dirais évolutive. Pas du tout en confrontation, parce que finalement, je pense que la première fois que j'aborde un rôle, j'ai une vraie conception du rôle et une vraie conception du personnage comme je voudrais le faire transparaître, avec vraiment... j'y mets tout mon cœur, toute mon âme, et très sincèrement, j'essaie d'y mettre ma patte un peu différente. Ou quand je vois d'autres interprétations, je me dis, j'aimerais mettre ça à moi, en tout cas. J'aimerais qu'on le ressente comme ça, ou j'ai encore ça à apporter. Même si ça a été fait des dizaines de fois, même s'il y a des quinzaines d'enregistrements, j'essaie toujours, quand j'écoute des enregistrements ou je regarde des vidéos, de me dire, mais ça c'est super, mais j'aimerais le faire comme ça. Je vais essayer, en tout cas, jusqu'au bout, à pouvoir donner cet aspect-là, ou cette nouvelle chose que moi je veux apporter. Au personnage.
Ah justement, vous parlez d'écouter, j'allais dire, d'autres versions, donc ça peut être des versions historiques de cantatrices qui ne sont plus de ce monde, ou ça peut être des consoeurs actuels. Parfois, vous en entendez telle version après avoir donné la vôtre.
Oui, c'est
quel
vrai.
Impact ça a et comment on gère, j'allais dire, sa propre personnalité, ses envies, ses choix, avec tout à coup d'être confronté avec une version qui va peut-être déstabiliser. Ou je sais pas,
c'est difficile. Alors moi, je crois qu'il faut se nourrir de tout. C'est-à-dire que avant d'interpréter un rôle, j'essaie d'avoir le plus d'informations possible.
Vous demander, parce que je sais que certaines interprètes ont tendance à pas trop se plonger. Est-ce que vous vraiment restez
proche? Moi je le conçois pas comme ça, parce que je trouve qu'on est dans un monde moderne où grâce à justement aux vidéos, aux DVD, aux CD, aux vinyles qu'on avait avant, c'est génial. On a des témoignages.
Qui a été fait autour de ça?
Moi, j'essaie de trouver le plus de versions possible.
D'accord.
pour pouvoir, parce que je trouve ça extrêmement intéressant déjà, justement, de voir les interprétations. Après, il faut les laisser. C'est-à-dire qu'il faut les oublier pendant un moment. Il faut vraiment, je pense, s'en nourrir pendant quelques mois et puis les laisser complètement pour pouvoir mettre sa patte, son interprétation. Et en même temps, savoir aussi ce qui a été fait, parce que en se disant, bah non, mais ça vient pas de quelqu'un d'autre, ça vient vraiment de moi, parce que je l'ai considéré comme ça. Après, d'aller voir les autres en ayant fait ses rôles, c'est très intéressant, parce qu'on se dit, tiens, ça c'est super sympa ce qu'elle a fait. Zut, j'aurais bien aimé trouver cette intention-là. Ou en se disant, bah non, ça je le conçois pas du tout comme ça, et je suis vraiment contente de l'avoir fait comme ça, parce que je trouve que le personnage en devient extrêmement antipathique, et du coup l'histoire aussi n'a plus de cohérence. Donc c'est toujours intéressant, mais on est en constante, perpétuelle recherche, et on se remet en question tout le temps. Donc il faut faire ça. Enfin, je le conçois comme ça. Mais... Et c'est passionnant. Et grâce au monde d'aujourd'hui, au monde moderne, qui a ses gros côtés négatifs, on a ça. Alors il faut en profiter, je trouve. Ce serait dommage. Moi, je suis très respectueuse et très admirative de tout ce qui s'y fait et de ce qui se fait. Donc je ne vais pas du tout être une chanteuse qui va se dire « Ah, mes collègues d'aujourd'hui, je ne vais pas aller les écouter parce que, voilà. » Non, au contraire. Je trouve ça extrêmement intéressant et formidable de voir ce qui se fait aujourd'hui, les collègues de maintenant, sur scène, en disque, en DVD, de voir les interprétations. C'est primordial même, je dirais.
Comment se passe ensuite dans l'approche d'un rôle, d'une prestation, d'un enregistrement, avec vos collègues, un truc, mais sur scène? Est-ce que se retrouver avec telle voix, d'homme ou de femme à côté de vous, va finalement avoir tel impact sur votre manière d'aborder le rôle,
C'est étrange, ça. C'est vrai que c'est étrange, parce qu'à chaque fois, on change. Mm. Donc, en effet, on se fait une idée de son partenaire, qu'on ne connaît pas la plupart du temps. Nous, on n'est pas au courant des productions, c'est-à-dire dans les théâtres, on n'est pas au courant de qui va être avec nous, de qui va chanter. Et souvent, ça étonne beaucoup les gens du public qui me demandent, mais là, vous allez chanter ça avec qui? Je dis, mais écoutez, je ne sais pas. Alors maintenant, il y a Internet, donc on est un petit peu plus au courant si on a vraiment envie de savoir quand les théâtres donnent leur programmation. Mais en général, on ne le sait pas. C'est-à-dire que... oui, c'est la surprise, mais moins aujourd'hui, parce que si on est curieux, on va commencer sur Internet et savoir avec qui on chante. Après, on les connaît pas automatiquement, on les a jamais vus sur scène, on les a jamais entendus. Donc, le premier jour, c'est toujours comme un... Moi, je compare ça un peu comme une rentrée d'école.
Qui va y avoir dans ma classe cette année?
Voilà, exactement, quels vont être les professeurs, la tête des professeurs, est-ce qu'il va être désagréable, méchant? Alors, les professeurs, ben, ouais, c'est un petit peu les metteurs en scène et les chefs d'orchestre. Il ne faut pas les considérer comme ça, parce que c'est des collègues. Et il faut vraiment se dire qu'on est tous au même niveau et qu'on travaille, on collabore. On collabore tous ensemble. Mais c'est un peu une rentrée d'école. Hein, le premier jour sur une production... Déjà, il y a l'angoisse du rôle, quand on l'a jamais fait. Se dire, est-ce qu'on va le faire bien? Est-ce qu'on va arriver jusqu'au bout? Et puis savoir si les collègues sont sympathiques, si on va bien s'entendre avec eux. Et puis souvent, c'est des rôles d'amoureux, donc c'est compliqué ça aussi. Parce qu'il faut quand même bien s'entendre en tant que collègue quand on fait des amoureux sur scène. Ça peut arriver qu'on ne s'entende pas du tout. Ça ne m'est jamais arrivé jusque-là, heureusement.
Est-ce que vous avez eu des appréhensions par rapport justement à des...
C'est pas évident. Ben alors, après, vocalement parlant...
Oui, je parlais plus vocalement, musicalement, soit des...
Ben, des appréhensions...
Les
chefs d'orchestre, on a des appréhensions.
Impressionnés ou plus ou moins...
Les chefs d'orchestre, on a des appréhensions parce que on sait que quand il y a une grosse masse orchestrale, si c'est une lutte, on ne va pas la gagner. C'est quand même le pot de fer contre le pot de terre. Et donc, on espère qu'il y aura une collaboration. C'est pas toujours le cas, malheureusement. C'est toujours... un peu l'orchestre, enfin le chef veut faire ressortir l'orchestre, les sonorités, et nous on n'a que deux cordes vocales, donc même si on nous demande de chanter plus, on ne pourra pas plus que ça. Donc c'est un peu compliqué. Après, ce que j'espère et ce que j'essaie de voir, c'est dès les premiers jours, les premières répétitions, c'est voir s'il y a une réelle collaboration avec le metteur en scène, le chef d'orchestre, si on peut discuter, si on peut nous avancer des points de vue, si on peut parler de notre vision aussi, du personnage, que ce soit autant musicalement que scéniquement. Quand on voit qu'on peut échanger des points de vue, c'est super. Parfois, c'est pas toujours le cas. On tombe sur des gens qui sont très, très... Bah oui, voilà, on peut dire ça. Donc c'est dommage parce que je trouve que l'échange est intéressant. Et avec les collègues, c'est pas ce problème-là qui se pose. Après, bien sûr qu'il y a des collègues qui vont... On se permet pas, en tout cas, de se donner des conseils musicaux ou vocaux entre collègues. C'est un peu une déontologie. Après, si on s'entend très bien, qu'on se connaît, qu'on s'est revu sur plusieurs productions, on peut en parler. mais de façon un peu informelle. Il y a des voix qui vont mieux avec d'autres. Donc c'est vrai qu'il y a des duos qui fonctionnent beaucoup mieux et d'autres qui ne fonctionnent pas. Il y a des mauvais castings parfois. Donc ça, après, on n'y peut rien. Et des déséquilibres. Ça, c'est après au directeur d'opéra d'arriver à faire bien sa programmation. Mais l'important, je pense, c'est déjà de s'entendre bien humainement avec les collègues.
Quels sont vos meilleurs souvenirs en termes de globalité, j'allais dire, aussi bien le rapport avec vos collègues, avec l'orchestre, avec la mise en scène, etc. Est-ce que vous avez des productions que vous mettriez vraiment plus en avant, qui vraiment, vous avez vraiment senti
Si, tout à fait. J'ai un souvenir très intense de mon premier Péléas, première Mélisande. Alors peut-être que c'était mes débuts, mais non, tout était la production, la collaboration avec le metteur en scène qui était Charles Roubaud, le chef d'orchestre qui était Emmanuel Villaume, qui est justement chef d'orchestre
de l'album.
Ça a été notre première collaboration. Marc Barrard qui était mon premier golo et pour lui aussi c'était prison. Donc il y a eu la production était très belle, très intelligente. Donc j'ai eu beaucoup de chance. C'était Marseille, très très bonne atmosphère de travail. Donc ça c'est un très bon souvenir. Et après dernièrement, alors j'aurais tendance de parler des deux dernières productions que j'ai faites. C'est-à-dire le Cyrano de Bergerac de Franco Alfano et le Manon de Masté que j'ai fait à Nice. Alors là le Cyrano, on a fait un DVD de ce Cyrano. Et par chance, toute l'équipe du DVD était libre pour refaire ce Cyrano à Monaco. Ce qui fait que quand on retrouve des collègues qu'on n'a pas vus depuis 5 ans et qu'on reste à chaque fois un mois tous ensemble, c'est vrai que c'est génial. Il y a une ambiance, on n'a plus besoin d'apprendre à se connaître. Et c'était une très belle production avec de vrais décors. Moi, j'aurais un petit peu tendance à aimer avoir des décors aussi. C'est-à-dire quand on a des costumes et des décors cohérents qui vont avec l'histoire... c'est magnifique pour nous de pouvoir on se met encore plus facilement dans les rôles. Après, s'il y a une réelle cohérence du metteur en scène, ça peut être une production moderne. Hein, moi, je trouve qu'il y a aujourd'hui des productions qui sont tout à fait cohérentes. Mais il faut qu'il y ait un réel travail de recherche et une réelle approche auparavant et un concept, une conception. Sinon, parfois, si c'est juste le concept pour le concept, ça fonctionne pas, mais ni avec le public, ni avec les chanteurs, parce qu'on n'y croit pas non plus. Donc la magie prend pas, la sauce prend pas. Après, le Manon de Masté qu'on a fait à l'Opéra de Nice, tout s'est passé super bien. C'était une nouvelle production qui était cohérente, avec des collègues. Moi, j'ai trouvé que le cast était très bien fait. Donc oui, parfois, la magie opère, pas toujours.
Est-ce que vous allez beaucoup à l'opéra ou pas ?
Oui, j'essaie dès que je peux. Mais alors, c'est vrai que nous, on travaille. Si on a la chance de travailler beaucoup, c'est plus dur. Après, c'est super sympa quand on arrive sur une production, qu'on est en période de répétition, et qu'on arrive et qu'il y a encore la production d'avant, il y a les spectacles. Donc, on peut y aller. Ou quand on est dans une région où il y a plusieurs théâtres dans la même région. Donc là, on a l'occasion d'aller voir d'autres spectacles. Là, je suis allée voir Le Songe d'une nuit d'été de Britten à l'Opéra de Nice, alors j'étais à Monaco. C'était extra. Parce que du coup, on va voir les collègues après, même si on les connaît pas. Et alors, c'est rigolo parce que les collègues étaient venus me voir. Enfin, ils avaient vu la dernière Manon. Ils m'avaient pas parlé. Et comme là, je suis allée les voir, ils m'ont dit « Mais j'ai vu ta Manon. Et j'ai pas eu l'occasion de te le dire parce que nous, on était en répétition. » Enfin, donc c'est sympa. Mais bon, aller à l'opéra, c'est pas évident pour nous encore. Parce que quand on bosse tout le temps, et puis trouver des places, c'est pas évident quand on n'est pas abonné.
Tu m'as dit des mots de tendresse.
Vous écoutez beaucoup de musique en dehors de la musique, j'allais dire, sur laquelle vous travaillez, ou est-ce que,
oui, assez
est-ce
important.
Que la musique pour vous c'est quelque chose le matin en vous réveillant, vous écoutez de la musique classique, pas classique, opéra, pas opéra, je ne sais pas.
Alors moi j'aurais tendance à écouter, j'ai des phases, si je suis vraiment en pleine production, je ne vais pas écouter d'autres opéras, je ne pourrais pas écouter un autre rôle. Ça peut m'arriver d'écouter de la musique symphonique, orchestrale, mais moins. J'écouterai plutôt du jazz. Moi, j'adore le jazz, j'adore Ella Fitzgerald.
Vous avez demandé justement l'influence des voix hors classique
sur vous. Très important. Enfin, moi, je trouve que Ella Fitzgerald, elle est arrivée à un summum enfin, pour moi, c'est parfait ce qu'elle fait. Après Billie Holiday, je trouve ça génial, j'adore. J'écoutais beaucoup de jazz, après juste aussi de jazz. Alors du free, je ne suis pas une spécialiste non plus, mais j'adore Coltrane, j'adore toutes ces choses-là. Oui, en dehors, j'écouterai plus du jazz. Après, évidemment, la radio. Mais j'adore, j'aime beaucoup Mika, j'aime beaucoup Amy Winehouse, tout ça, je trouve ça très intéressant. J'aime bien quand il y a une patte de voix, quand il y a un monde artistique. Alors évidemment, c'est un lieu commun de dire ça, parce que tout le monde dit ça en ce moment. Mais c'est vrai que quand il y a vraiment une voix, en l'occurrence, c'est ce que je pense pour ces deux artistes, et un monde musical, je trouve ça très sympa d'écouter ça. Je pourrais aller acheter l'album sans problème. Je vais écouter dans les disquaires, souvent des disques en écoute. Mais bon, c'est vrai que je serais plutôt. Même Nat King Cole, moi je pourrais me l'écouter en boucle. Hein. C'est génial. Après, même pour être plus. Ou du Dit Martin, des choses comme ça, c'est rigolo à écouter. Mais bon, c'est vrai que je reste plus dans le jazz. Ella, Nat King Cole. Et puis tous les grands, Armstrong, enfin j'adore ça. Donc j'écoute beaucoup de ça en tout cas, si je ne suis pas en production.
Alors parmi les projets, j'ai cru comprendre que vous ayez travaillé sur un opéra avec Sting et Elvis Costello.
Oui.
Vous pouvez nous en dire plus. Il passe au Châtelet, je crois, la saison prochaine.
Oui, il passe au Châtelet. Moi, malheureusement, je ne suis pas libre pour le refaire avec eux. Oui, Welcome to the Voice. Mais c'était un projet assez hallucinant. Ils m'ont présenté ça un peu comme un opéra rock. Alors, moi, j'ai trouvé le projet super intéressant. Puis je trouve que c'est bien un peu d'essayer de mélanger les genres. Le pari était osé, je trouve que c'est réussi, vraiment. C'est des gens charmants. Steve Nees et Muriel Théodori sont les protagonistes de ce projet. Et alors en plus, Sting dans l'affaire, c'était une sacrée expérience. Moi je trouve que c'est bien. Je trouve qu'il faut. J'espère qu'il y aura d'autres personnes qui vont. Ou que eux vont continuer en tout cas dans cette démarche-là. Mélanger les genres, c'est pas toujours évident. Pourquoi pas? De toute façon, il faut oser, moi je trouve. Il faut pas quand on est. Il faut essayer d'ouvrir un plus large public, l'opéra. Et je vois qu'en fait, les gens ils aiment ça aussi. Et que. Il faut pas hésiter. Il faut essayer en tout cas.
D'autres projets dans les mois à venir?
Une grande prise de rôle, Thaïs. Thaïs de Massenet, donc, qui est dans le disque. Et que je rêvais de chanter depuis très longtemps, donc ça vient à un point nommé. Beaucoup de concerts, peut-être.
Bouffe du Nord, je crois.
Le 13 mai, les Bouffes du Nord qui est très important.
Le récital sera essentiellement axé autour de l'album.
Voilà, autour des airs d'opéra français, mon premier récital parisien, donc c'est flippant.
J'espère que. C'est une belle salle.
Oui, c'est une très jolie salle, et puis je trouve que le lieu est. C'est original aussi d'aller faire un concert, et je trouve que le lieu s'y prête complètement, proximité justement, encore avec le public. Donc voilà, récital au bout du Nord, et puis écoutez, des concerts la saison prochaine. Peut-être aussi me lancer un peu maintenant dans l'opéra russe. Je vais peut-être faire ma première Tatiana dans Onegin bientôt. Gros challenge, parce que je ne parle pas russe et je ne conçois pas en tout cas de ne pas comprendre ce que je chante. Donc voilà, et puis des opéras italiens et des opéras français. J'espère qu'il y aura beaucoup de projets qui vont arriver. Après, je suis un peu superstitieuse, donc il ne faut pas trop le dire tant que ce n'est pas signé.
Des envies de rôles, justement. Alors, soit d'un côté des rôles qui vous semblent presque intouchables en ce moment, à ce moment de votre carrière, que vous préférez peut-être, je ne sais pas, attendre ou autre. Ou au contraire, déjà des envies vraiment de. Est-ce qu'il y a des personnages comme ça qui...
Oui, il y en a tellement. Mais...
Quelques-uns, alors.
Bon, en tout cas, toujours des grandes héroïnes dramatiques. Hein. Ouais. Beaucoup de drames, de larmes. J'adorerais évidemment faire Traviata, que du coup, j'ai pas encore fait. Et... Bon, c'est un peu un lieu commun hein, pour une soprane de dire ça, mais le rôle, il est magnifique. Il est magnifique, je pense, à jouer sur scène. Il est magnifique, l'opéra est tellement bien écrit. Desdemone, Othello, je pense que c'est un rôle... J'adore cet opéra que je trouve tellement beau. Après, des grandes envies, du bel canto. Adina dans l'élixir d'amour, j'aimerais beaucoup le faire. Là, c'est plus léger pour le coup. Pour une fois, ça finit bien. C'est plus rare. Oh, pff, tellement d'envie. Mais cela, déjà, ce serait formidable dans un futur pas trop éloigné. Rondiner, des puccini. Enfin, j'aimerais beaucoup refaire des puccini parce que j'ai commencé par ça. Enfin, c'est ça qui m'a fait aimer l'opéra. Des Mozart, je trouve que c'est un baume pour la voix. Mozart, c'est magnifique. C'est une école de chant géniale. Donc voilà, j'aimerais bien faire ça. Mais déjà, j'ai beaucoup de chance d'avoir chanté tous les rôles que j'ai chantés sur scène. C'était un rêve de jeune cantatrice, quand j'ai commencé mes études, de me dire, est-ce qu'un jour j'arriverai à les chanter ? Est-ce qu'un jour j'aurai cette voix-là ? Et quand on me les propose, on se dit, tu te rends compte, mais j'ai toujours rêvé les chanter. Et après, on flippe parce qu'on se dit, est-ce que ça va être bien ce que je vais faire ? Est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que c'est pour moi ? On prend la mesure de la proposition.
C'est bien si vous sentez. On ne vous sent pas blasé par rapport à ça.
Alors. Oh, il faut pas, quelle horreur. Non, c'est un métier magnifique, c'est un métier très difficile. Parce que y a beaucoup de choses qui sont réunies dans ce métier en même temps. Et voilà, c'est le métier de l'instantané qui fait que voilà, on remet toujours ses tripes tout le temps. Et il ne faut pas faillir. Mais c'est extra, c'est un métier extra. Et c'est très intense.
Et des voix avec lesquelles vous aimeriez chanter, homme ou femme, sur une scène.
Des partenaires ?
Des partenaires.
Oh oui, j'adorerais. Qu'est-ce que je pourrais écouter
comme ça, hein, qui vous passe par.
J'aimerais beaucoup rencontrer ou chanter avec René Fleming, ou par les chants. Enfin, ça m'intéresserait énormément. Et aussi beaucoup, évidemment, avec les chanteurs qui existent comme, qui sont là et qui ont une culture incroyable, comme Mireille Lafreni, qui ont, j'aurais adoré rencontrer Pavarotti, malheureusement que j'ai pas rencontré. Mais écoutez, là, moi, je vais normalement chanter avec Placido Domingo au Théâtre du Châtelet. Ça aussi, c'est un des gros projets. Le Cyrano de Bergerac de Alfano. Ça, je pense, ça va être une expérience incroyable. J'espère pouvoir beaucoup me nourrir de ça. Après, même des masterclass, rencontrer Montserrat Caballé ou travailler avec des grands chanteurs. J'aurais adoré rencontrer Maria Callas, même si peut-être des gens vont nous dire qu'elle n'était pas si sympathique ou je ne sais pas quoi. Mais après, je pense que c'est des rencontres intéressantes. Et se nourrir de ça. Se nourrir de ça. Après, j'aurais adoré chanter avec Boris Kritov. J'aurais pas eu beaucoup de chance, je pense, de chanter avec lui. Mais enfin, c'est des voix hallucinantes. C'est des voix hallucinantes. Et qu'il devait y avoir une patte incroyable et des voix qui doivent vous envelopper et qui doivent vous galvaniser sur scène. Après, j'ai eu beaucoup de chance de chanter avec Roberto Alagna. Ça, c'est un super collègue et un grand artiste sur scène, un grand acteur. Et lui, il galvanise vraiment les troupes. On a tous envie de bien faire, on a tous envie de faire des étincelles quand on est avec lui. Et c'est vrai que ça crée des émulations quand on est avec des gens comme ça. Ça nous pousse à faire ça nous pousse à faire encore mieux. Ouais, c'est une stimulation géniale. Donc plus j'aurai la chance de chanter avec des partenaires comme ça, plus j'espère que ça me fera évoluer aussi moi. Voilà.
Alors avant de vous écouter avec des partenaires, on ira vous écouter donc au Bouffe du Nord le 13 mai.
Oui.
Et on rappelle donc que votre album, votre récital consacré aux airs d'opéra français vient de sortir chez Decca.
Voilà, French Heroines.
French Heroines. Merci Nathalie Monfredo.
Merci.
Les femmes sont méchantes et les hommes.
cobuzz.com. Rencontre par Marc Zisman.